Alors nous sommes au troisième dimanche de Pâques. Jésus est ressuscité. On est au courant. Oui, ça va, on le sait. Troisième dimanche quand même, toutes les messes de semaine où on chante Alléluia, on le sait. Il était mort, il est vivant. Et ce matin, je voulais m'arrêter plutôt sur la figure des apôtres qui sont là. Et donc quelquefois, parce qu'on parle bien sûr de la résurrection de Jésus, et c'est normal, c'est le plus important, bien sûr, mais on oublie que les onze qui sont là, ce ne sont pas seulement des sortes de caméras qui filment de façon neutre et inerte. Ils ont leur ressenti, leur cœur, ce qui s'est passé pour eux, cette transformation extraordinaire. Pour eux aussi, même si eux ne sont pas morts ni ressuscités cette fois-là. Les apôtres, les onze et quelques autres, puisqu'il y a les disciples qui reviennent d'Emmaüs. Après le vendredi saint, échec, mort, tristesse, enfermement, perte du sens. Probablement se disent-ils aussi que tout ce qu'ils ont misé sur ce Jésus, c'était raté. C'était le mauvais cheval, c'était pas lui. Et puis bien sûr, on était connu, on suivait quelqu'un de connu, maintenant on a peur, on va se faire arrêter comme lui. Pierre a renié, Judas a trahi. Catastrophe. Tout s'est effondré. Et il ne faut pas balayer trop vite cet effondrement. Comme si, après 48 heures d'attente, un peu peut-être en jouant à la PlayStation ou en regardant la télé, « Ah, ça y est, Jésus est revenu, voilà, bon, tout va bien. » Non, c'était pas si simple que ça. C'était vraiment l'effondrement. Alors, puisque nous avons passé la journée d'hier sur ce thème, et bien sûr, je n'en ai pas les compétences, mais nous avons parlé d'estime de soi, confiance en soi, là c'est surtout l'estime de soi. Leur estime d'eux-mêmes devait être très basse. Ils ont tout raté. Pauvre Jésus, mais en plus eux-mêmes, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur quoi vont-ils s'appuyer? Et donc ils sont dans cet état, pas terrible. Et Jésus arrive, Jésus est là. Et il y a bien sûr dans notre passage, c'est la suite des six disciples d'Emmaüs, ce retour, ils ont déjà vécu tout ce temps sur le chemin, et il rencontre les onze qui sont là, Jésus est là. Jésus se rend présent. Et les choses vont se transformer. D'abord, bien sûr, avec ces mots qui apparaissent, la paix, la joie, que dit Jésus, et puis à l'envers, être bouleversé, frayeur, crainte, ne pas croire. Jésus va apporter la paix soit avec vous, et la joie. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Quelque chose du sentiment du cœur qui va déjà faire un premier chemin important. Le cœur tout d'un coup se réveille. Tout d'un coup la lumière est là. Tout d'un coup cette obscurité, cette souffrance, ce goût de cendre disparaissent. Jésus fait quelque chose d'abord sans rien faire, simplement parce qu'il est là. Parce qu'il est présent, parce qu'il parle, et il y a la paix et la joie qui reviennent. Et c'est un combat, c'est pas automatique, puisque dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Donc c'est là, et en même temps, il faut que ça grandisse. Et puis Jésus est présent. Jésus se rend présent. C'est étonnant, cette manière, alors vous le savez bien, cette manière dont on dit... Il traverse les murs, il n'est pas là, et tout d'un coup, il est là. Il est passé à travers les murs, bien sûr. Surtout qu'il a un corps, alors comment fait-il? Évidemment, on ne sait pas. Mais surtout, il est là. Et les disciples d'Emmaüs, sur le chemin, au moment où il n'est plus là, se rendent compte que quand il était là, leur cœur était brûlant. Il est là. Il se rend présent. Une présence, alors hier nous parlions de solitude. La solitude irrémédiable de tout être humain. Et en même temps, avec Dieu, avec le Christ, il y a cette présence toujours. Toujours, même quand tout va mal, il y a cette présence qui est là, qui est vraiment à côté de nous, même si parfois on ne la voit pas. Jésus apporte la paix et la joie, Jésus se rend présent. Et puis après, Jésus ne va pas faire... au moins, pas qu'on le sache dans les textes qu'on a, des discours gigantesques avec des explications par A plus B, ou je ne sais quelle thérapie d'ailleurs. Il va se contenter de choses très simples. C'est moi, regardez, touchez, donnez-moi quelque chose à manger. » Et il mange avec eux. Le contact physique, la rencontre, le fait de manger, les choses les plus simples de toute vie humaine. Ce que Dieu nous donne n'est pas forcément des choses mystiques, extraordinaires ou très lointaines, mais souvent ça passe par les choses les plus simples de notre vie, par le quotidien. Vous vous souvenez des béatitudes, bien sûr. J'aime bien ce texte quand on le prend pour les obsèques, et je dis toujours pareil, alors comme j'en ai jamais célébré ici avec vous, je peux le dire, je ne me répéterai pas. Jésus ne dit pas « heureux les riches, heureux les stars, heureux ceux qui réussissent tout ». Il dit « heureux les simples, heureux les pauvres, heureux ceux qui font la paix ». Et on aurait eu envie d'ajouter « heureux ceux qui trouvent leur part de bonheur là où ils sont, dans ce qu'ils ont à vivre, même les choses les plus simples et les plus concrètes ». C'est là que le bonheur nous est donné, c'est là que la promesse nous est faite. Non pas dans des rêves inaccessibles, mais dans ce qui est quotidien. Jésus vient nous apporter cette paix et cette joie dans le repas, la rencontre, et finalement ce que nous vivons chacun de nous, chaque jour. Et puis Jésus donne encore deux choses. Il redonne le sens. Tout ce qui avait été écrit à mon sujet doit s'accomplir, et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'il a fait juste avant avec les disciples d'Emmaüs. Le sens, on comprend ce qui se passe. Tout s'éclaire. Pourquoi ceci, pourquoi cela ? On comprend. On comprend, et on comprend que ça n'est pas un hasard insensé qui produit des événements sans queue ni tête, mais notre vie a un sens. Elle va vers quelque part, ce qu'il a vécu, ce qui se passe, a un sens. Et du coup, on peut faire ce que faisaient spontanément les disciples d'Emmaüs avec les onze, on peut relire notre vie et voir comment il se rendait présent, comment il était là. Alors je ne vais pas être plus long sur cette page d'évangile. Cette transformation, les apôtres vont la vivre, il faudra du temps, il faudra attendre l'Esprit-Saint à la Pentecôte pour que véritablement ils sortent de leur coquille, du cénacle, et qu'ils aillent parler, annoncer. Et vous avez entendu les deux autres lectures, un morceau d'un discours de Pierre, des paroles de Jean, deux des témoins. Et la manière dont il parle, quand on a entendu ce que je nous dis, peut-être que ça s'éclaire différemment. C'est cette transformation qu'ils ont vécue, dont ils sont témoins eux-mêmes et qu'ils peuvent à leur tour apporter aux autres. Et bien sûr, si je parle d'eux, je pense à nous. Je pense à nous autres qui sommes là. Peut-être que nous avons rencontré le Christ, peut-être qu'il nous a aidés. Et probablement que pour pouvoir dire comme saint Pierre que c'est en son nom qu'on est sauvé, tournez-vous vers Dieu. Vous avez renié le saint et le juste, le prince de la vie. Et bien sûr, comme dit saint Jean aussi, le défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Ils ont tous les deux pu le dire parce que tous les deux, ils ont vécu cet abandon. Ils ont vécu cette souffrance. Ils ont vécu le fait de se sentir perdus. Et je me souviens de cette phrase de Madeleine Delbrel, une grande dame du XXe siècle, qui j'espère peut-être sera canonisée un jour, et qui dit cette phrase si forte que j'ai retenue dans mon cœur depuis très longtemps, pour toujours, « Il faut se savoir perdu pour vouloir être sauvé. » Je répète, « Il faut se savoir perdu pour vouloir être sauvé. » Pierre et Jean et les autres se sont su perdus. Ils se sont su complètement égarés, complètement désemparés. Et ils ont accueilli ce que Jésus pouvait donner. Et du coup, ils peuvent en témoigner. Alors dans ce temps de Pâques, voyez, nous célébrons la joie du Christ, mais nous avons tous à nous redire que nous passons nous aussi par cette mort et cette résurrection. Que nous aussi, nous devons accueillir cette transformation, même si apparemment tout va bien dans notre vie, et je ne suis pas en train de souhaiter des gros malheurs à tout le monde, évidemment. Mais nous avons tous ce passage à faire, parce que de fait, ce n'est pas parce que tout va bien que nous sommes sauvés. Nous sommes tous perdus d'une manière ou d'une autre, et nous avons tous besoin de rencontrer celui qui vient ouvrir nos cœurs, qui vient se montrer, nous redonner la paix, la joie, le sens de la vie, la capacité de relire et de comprendre, et puis bien sûr d'en témoigner et de le porter aux autres. Alors je termine en redisant un mot sur les discours de Pierre. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres, Pierre prend 5 fois la parole avant que Luc s'intéresse bien sûr d'abord à Paul, qui va après prendre beaucoup de place. Pierre parle 5 fois, 2 fois à la foule, deux fois au chef des grands prêtres et une fois au centurion Corneille. Les deux fois à la foule, grand succès, il y aura 3000 puis 5000 conversions d'un coup, extraordinaire, parce que c'est des gens qui avaient soif. Les deux fois au grand prêtre, rien, des coups de fouet et la porte, ça marche pas, parce que c'est des gens qui savaient tout et qui avaient tout. Et puis Corneille et sa famille, eux qui avaient encore plus soif peut-être que la foule des Juifs, puisqu'ils n'étaient même pas Juifs eux-mêmes et qu'ils désiraient s'approcher du Dieu saint, du Dieu unique. Et eux, c'est encore mieux, Pierre n'a même pas le temps de faire son discours, que déjà l'Esprit Saint tombe sur eux. Alors voilà, peut-être ce que nous pouvons vivre pour nous et pour ceux que nous rencontrons, que le Seigneur se révèle à nous tous et à notre monde qui a tant besoin d'être sauvé. Amen.